Ce soir encore, Philippe Bresson rencontre Fanny Ardant. Tout de suite, la musica de Fanny Ardant.
J'ai écouté avec attention, en essayant de chasser la peur, et j'y suis arrivé. Alors j'ai entendu que votre récit était cohérent et terrible, sans commencement ni fin.
Je lui disais qu'un jour il pourrait me toucher de nouveau pour la première fois. Je disais me prendre, m'emporter, et que durant le temps qu'il nous restait à vivre, il nous faudrait essayer de tenir tête à la mort.
Marguerite Duras, La Musica deuxième, 1985, extrait. J'ai voulu consacrer la dernière partie de cette émission à la musique, dont vous dites, Fanny Ardant, qu'elle est votre ange gardien. Petite fille des gens, vous offrez chaque année à Noël un livre et un opéra. La musique classique, la musique contemporaine, mais aussi la mélancolie des chansons tristes, qui, selon vous, aide à formuler son chagrin. Si on écoute bien la mélodie de votre voix, alors on entend qu'elle est sans doute moins suave qu'il n'y paraît d'abord. Sous le velours du moderato cantabile, on perçoit des inflexions beaucoup plus âpres, rugueuses, staccato, appassionato, notamment quand la voix s'élève contre les préjugés, l'ordre, l'asphyxie qui menace. Et c'est aussi cela, pour moi, la musica de Fanny Ardant. La place qu'est la vôtre en tant qu'actrice, en tant que femme, dans une société que vous qualifiez vous-même de moutonneuse, une époque qui, pour reprendre la métaphore de Yukio Mishima, n'entend plus la musique. Bonsoir Fanny Ardant.
Bonsoir.
Et merci de nous accueillir ce soir encore dans votre appartement à Paris.
Non, c'est un plaisir.
Y a-t-il eu, du moins à vos débuts, des metteurs en scène qui vous auraient engagé sur votre seule voix au téléphone, sans même vous avoir vu, qui serait littéralement tombé amoureux de cette voix?
Non, ça a été le contraire. J'étais renvoyée à cause de ma voix. J'ai été engagée pour lire un roman qui était Mildred Pierce. Et à la demande générale des auditeurs, sortez cette fille de la radio. Donc, ça a commencé comme ça. Je me souviens aussi d'avoir passé une audition pour le théâtre. Et l'assistant du metteur en scène, dont j'ai oublié le nom, il me disait comme ça, « Mais vous avez un accent, vous. » Moi, j'ai dit, « Mais je ne suis pas la seule. Sortez. Sortez immédiatement. » Voilà. Donc, il pensait que je parlais avec un accent et que j'avais une voix monotone. Bon.
Finalement, on l'aime ou on la déteste. On l'adore ou on la déteste, votre voix.
Oui, qu'elle est insupporte aussi. Mais c'est bizarre parce que la voix, on ne s'en rend pas compte. Mais je me souviens d'un temps où on pouvait appeler au téléphone pour qu'on vous réveille le lendemain. Et que c'était très important. Et que quand vous vous couchiez très tard, mettons vers 3h du matin, et que vous appeliez le téléphone pour dire « Vous pourriez me réveiller à 6h ?» Et si la voix était agréable, je disais « Mais ça sera toujours vous ?» Et non, peut-être il allait se coucher. « Non, oui, ça sera toujours moi. » Alors je m'endormais parce que je savais qu'une voix de cet homme ou de cette femme agréable allait me réveiller sans que tout le monde s'écroule.
Mais finalement, ne pas faire l'unanimité, à commencer par votre voix, est-ce une chose qui vous dérange? Il me semble que ce n'est pas pour vous l'ultime ambition, faire l'unanimité.
Non.
L'idée de déplaire ne vous déplaît pas?
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je préfère qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, mais je ne veux pas plaire. Plaire, ça voudrait dire... tu vois, ça voudrait dire s'avilir, chercher des petits cocktails de réussite pour savoir comment plaire. Et ça, j'ai pas envie.
Dans un texte à propos de la voix, Roland Barthes définit le grain de la voix comme un mixte de timbre et de langage. Il parle avec admiration des chanteurs qui privilégient la prononciation à l'articulation, et qui joue en même temps sur la diction de la langue et celle de la musique. Et ça me rappelle ce que disait Louis Jouvet, la diction entraîne le sentiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Fanny Ardant?
Assez, oui. Une diction comme si on mâchait du fer. On sent derrière les nerfs, le cœur qui bat plus fort. Une sorte de mollesse ou de traîner sur les mots, c'est pour, comme vous savez, le serpent dans le livre de la jungle. Mais par exemple, moi si j'admirais autant Maria Callas, c'est que pour certains rôles, chanter, elle choisissait le son laid, par exemple dans Carmen, des notes graves ou aiguës, pour montrer la distorsion de l'âme ou du cœur brisé. Et moi, à ce moment-là, de ne pas chercher justement le legato, la voix parfaite, parce qu'on a bien obtenu le contrut. C'est pour ça que je dénie à quiconque de s'allonger dans le noir sur un lit et de dire maintenant je vais te faire écouter n'importe quoi de Callas. À elle seule, même dans le noir, c'est un opéra à elle toute seule, parce que on sait déjà de quoi il s'agit. Si c'est de l'amour, de la haine, de la vengeance, de l'espoir, c'est une des plus grandes, c'est pour ça que c'est une grande actrice. C'est parce que dans le verbe, elle met déjà le sang et le sens.
Maria Callas, vous l'avez joué au théâtre dans Masterclass, mise en scène par Roman Polanski, mais aussi au cinéma, Callas Forever, de Franco Zeffirelli en 2001. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez elle? J'ai l'impression qu'on retrouve aussi cette idée que nous avons développée dans la première partie de cette émission à propos de vos origines, de votre père, des gens qui vous ont construite d'une certaine manière, le refus de toute forme de compromission. C'est ça aussi Callas, non?
Exactement. Et je pense que je me souviens avoir été frappée en jouant une scène d'elle qui avait été écrite par Martin Sherman, le scénariste. Et elle dit tout d'un coup, s'il y a eu une chose dans ma vie, c'est que j'ai été honnête. Et l'honnêteté en art, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. C'est comme la recherche de l'absolu, l'honnêteté. C'est de savoir au fin fond de soi qu'elle est inatteignable, absolue, mais qu'on va tout mettre en force, en forme, en désir, en comportement pour l'atteindre. Et que, forcément, elle le savait bien, que ça vous échappe toujours. C'est comme la toison d'or, c'est comme le Graal. Et que c'est ça qui me plaît, de la recherche. Elle disait, il faut considérer tout ce qu'on fait comme une répétition. C'est comme si... Vous savez cette fameuse phrase, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, que rien, jamais rien n'est acquis, qu'il y a quelque chose toujours, ah ça aurait pu être mieux, ça j'aurais pu, un peu comme les grands artisans qui cherchent ce que je peux penser aussi dans la peinture, dans le velouté, dans quelque chose. Vous savez quand vous voyez sans arrêt des esquisses d'un peintre qui cherche la bonne lumière, la bonne nuance, voilà. Et moi je pense que Callas... C'est pas que ça a été la plus grande chanteuse, c'est qu'elle a été un modèle pour tous ceux qui entreprenaient quelque chose. Que vous soyez boulanger, maréchal ferrant, conducteur d'autobus, premier ministre. Si tu fais cette chose, fais-la avec amour, avec passion, avec absolu.
Il y a cette très belle scène dans le film de Franco Zeffirelli, le refus de l'imposture. On lui propose de doubler des images actuelles avec la voix qu'elle avait avant de la perdre. Elle refuse.
C'est là où elle dit, si j'avais une chose, je me rappelle de « honest » en anglais, et qu'elle dit, quoi, vous voudriez que je finisse ma vie sur une imposture, c'est-à-dire un petit micmac, la voix d'autrefois, alors que je ne l'ai plus, cette voix. Et ça, c'était... Parce que beaucoup de gens ont été désarmés par le film, parce qu'ils ont pensé que ça allait être le roman feuilleton de la fille avec la valise en carton qui arrive, alors que ça voulait dire quelque chose de beaucoup plus fort. Qu'est-ce qu'est l'artiste? En quoi, de quoi est fait un artiste? Si tant est que quelqu'un peut se définir artiste.
La musique a depuis toujours une grande place dans votre vie, Fanny Ardant. On peut même dire qu'elle est inscrite dans votre généalogie. Déjà, vos grands-parents étaient non seulement mélomanes, mais aussi musiciens, je crois.
Oui, mais comme ça, des musiciens du dimanche.
Et de quoi jouaient-ils?
Ma grand-mère jouait du piano.
Comme vous.
Et mon grand-père jouait du violon. Puis ils appelaient un ami qui jouait du violoncelle.
Et vous avez appris à jouer du piano, petite fille?
Petite fille d'abord, et puis après je me suis arrêtée longtemps, et puis après j'ai recommencé. Et je me suis jetée dans le piano comme on se jette dans la drogue. C'est-à-dire, je disais à mon professeur, je voudrais jouer du piano pour ne plus penser. Elle me disait, bon, vous penserez quand même. Donc par exemple, on avait commencé par Bach. Parce que je me disais que Bach, même estropié, il en reste toujours la structure. Parce que si vous jouez mal Debussy ou Schubert, y a plus rien à faire. Et que je pense toujours que dès qu'on sait un instrument de musique, quelque part, on est sauvé.
C'est ce que vous appelez votre ange gardien?
Oui. C'est-à-dire que la musique met en forme tout ce magma infâme qu'on porte en soi, qui s'infile comme des coulées de mercure, et que tout d'un coup, de savoir que quelque part existe une mélodie qui peut retranscrire exactement, que ça soit Wagner ou que ça soit Julio Iglesias, qui met en forme avec trois mots ou un accord. Ding, il a touché là où vous étiez.
Vous jouez le rôle d'une pianiste dans plusieurs films, Benvenuta d'André Delvaux, mais aussi La famille d'Ettore Scola. Vous est-il arrivé de jouer vraiment du piano dans un film ou s'agit-il toujours d'un doublage? Est-ce que vous auriez envie de jouer une pianiste? Est-ce que vous pourriez le faire?
Non, parce que j'aurais jamais la virtuosité.
Mais une pianiste amateur peut-être?
Oui, parce que par exemple, justement dans la famille, c'est parce qu'il avait vu, c'est moi qui joue.
Ah, c'est vous qui jouez alors?
Parce que, toujours, avec beaucoup de modestie, je choisis un truc où je me dis, bon, ça va aller. Je commence pas à jouer du Rachmaninov comme un fou.
Et aujourd'hui encore, vous jouez, ici, chez vous?
Oui.
Qu'est-ce que vous jouez ces temps-ci?
Moi, je joue toujours du Bach. Alors, j'aime beaucoup aller sur les quais, il y a un magasin où il y a des transcriptions, vous voyez, des transcriptions pour Bach. Et ce que j'aime beaucoup, c'est toujours, mais je n'ai plus de professeur. Alors, je trouve qu'un professeur, c'est comme un rendez-vous avec quelqu'un. On lui dit, voilà l'état des lieux. Qu'en pensez-vous? Et je me rappelle qu'avec mon professeur, je disais, est-ce que je pourrais mettre ça en chantier? Il me disait, plus tard. Donc, je crois que vous faites des progrès pour pouvoir jouer quelque chose que vous aimez. Qu'il n'y avait pas ce côté, vous savez, le solfège et des choses. Bien sûr que je ne voulais pas jouer du piano pour passer à Carnegie Hall. Non, je voulais jouer pour... Et j'ai toujours admiré ceux qui faisaient de la musique en orchestre, ou de la musique de chambre, tu vois, faire partie d'un orchestre. C'est magnifique.
Vous le faites d'une certaine manière en prêtant votre voix à des opéras en tant que récitante. En 2004, par exemple, vous prêtez votre voix parlée à une figure légendaire de la tragédie grecque, peut-être la plus passionnée, la plus dérangeante, la plus touchante aussi, Médée. C'est comment d'incarner Médée sur scène? L'opéra de Cherubini, mis en scène par Jean-Paul Scarpita. Je crois que c'était aux Arènes de Nîmes.
Oui.
Vous étiez une sorte de fantôme de Médée.
Oui, exactement.
Oui.
Bon, j'ai toujours aimé beaucoup Médée. Je la comprends. Et je trouve qu'il vaut mieux tuer ses propres enfants qu'ils soient avilis et tués par d'autres. Tu vois, il y avait quelque chose comme l'amour suprême. Évidemment, aller raconter ça à Elle Magazine, on dirait « ma che orrore ». Médée, c'est la fille du soleil, donc tu vois, il y a quelque chose, elle pourrait pas supporter que ses enfants soient mis en esclavage. D'ailleurs, si vous voyez, dans la tragédie grecque, on ne reparle plus jamais de Jason. Et il a dû manger des pierres, hein, ce garçon, après. Parce que le roi est mort, la fiancée est morte, consumée par la robe, ses deux enfants sont morts, et Médée, elle est partie sur son char. Et lui, ma cosa fa.
Callas incarne Médée dans le film de Pasolini.
Magnifique. Le regard.
Tout passe par le regard,
ouais.
Puisque c'est un rôle muet.
Ouais. C'était magnifique, ce film.
Vous avez aussi été récitante en 2005 pour l'oratorio dramatique d'Arthur Honegger et Paul Claudel, votre cher Paul Claudel, Jeanne au Bûcher. Vous vous souvenez des derniers mots de cet oratorio?
Moi, je me rappelle, elle disait « Je viens !» Tu vois, « Je viens !» comme si on l'attendait. Comme si quelqu'un l'attendait et que, tu vois, j'ai beaucoup... Et c'est très compliqué à faire parce qu'il faut... C'est pas juste être récitant, vous avez dit tout à l'heure, comme un instrument. Il faut respecter un peu comme l'histoire du soldat, respecter le rythme, le dire d'une certaine façon sur des certaines notes et pas comme ça tout d'un coup dire, voilà, j'ai envie de dire ça.
C'est ce que vous faites aussi avec Oedipus Rex de
oui.
Stravinsky, cette fois-ci sur un livret de Jean Cocteau, sous la direction d'Eliot Gardiner, et puis en 2009... Vous rejoignez votre grand amour de la femme d'à côté, Gérard Depardieu, pour La haine.
Oui.
Offenbach. Et je crois qu'Offenbach, vous l'aimez particulièrement. Pour quelle raison?
Parce qu'au fond, il est mélancolique. Il écrit des valses. Il écrit des airs comme ça. Mais il y a comme s'il y avait derrière tout ça, comme la connaissance que ce monde va s'écrouler. Donc il y a quelque chose de mélancolique tout en essayant de faire rire le Second Empire. Il y a quelque chose, beaucoup de talent parce que mélancolique, comme l'Europe centrale.
Sous une apparente légèreté peut-être.
Ouais.
On retrouve d'ailleurs dans La Haine les thèmes de La Femme d'à côté, l'amour-passion, la seule issue, c'est la mort.
Oui, les choses de Roméo et Juliette, les deux familles qui se haïssent.
En 2008, vous faites votre première mise en scène, vous montez Véronique au Châtelet, une opérette d'André Messager, peut-être la plus populaire. Puis en 2016, toujours au Châtelet, vous mettez en scène Passion, une œuvre assez rare de Stephen Sondheim. Et je crois qu'Ettore Scola avait déjà adapté cette histoire au cinéma, Passion d'amour, d'après le livre d'Iginio Gotalchetti. Stephen Sondheim s'est inspiré du film de Scola, m'a-t-on dit.
Oui. Il a tellement été frappé par cette histoire qu'il a écrit son opéra, qu'il avait montré à Ettore Scola, qu'il avait presque suivi mot à mot tout ce qui était dans le film. Sauf que Sondheim a ce génie d'écrire des chansons, des airs magnifiques, et par la musique et par ce qui est dit. Et moi, j'ai adoré travailler sur dans cet opéra.
Avec Nathalie Dessay.
Oui.
Le rôle-titre.
Le rôle-titre de cette femme, Fosca, qui tombe folle amoureuse d'un bel officier de cavalerie qui d'abord pense qu'elle est folle, tout le monde pense qu'elle est folle, mais toujours pour en revenir à ça, elle dit « un jour vous m'aimerez ».
On pense surtout qu'elle est laide.
Mais alors moi, par exemple, j'avais tout de suite dit que c'était pas quelque chose qui m'intéressait au théâtre, parce qu'au théâtre, personne n'est laid, personne n'est beau, on est des ombres. Et donc j'avais dit, je préférerais que vous viviez avec cette chose intense en vous, comme les gens qui ont été très malheureux, claquemurés entre quatre murs et qui tout d'un coup parlent. Et vous savez, les gens qui vous parlent trop près du visage, qui vous parlent avec trop d'intensité, donc on a peur. On a peur des gens trop absolus. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce temps.
Pour Cassandre, en 2015 à Avignon, un opéra parlé de Michael Jarel, mise en scène par Hervé Loichmol, vous n'êtes plus récitante, mais vous jouez le rôle. Et c'est d'après, je crois, la romancière allemande Christa Wolf.
D'accord.
Cassandre est à sa manière une résistante.
Ah, complètement.
Quelqu'un qui dit non au pouvoir, à l'abus de droit, à la bêtise. À quoi avez-vous le plus envie de dire non aujourd'hui, Fanny Ardant ?
Je veux dire non à l'embrigadement des bien-pensants. Je veux dire non à la pensée opaque et commune. Je veux dire non à tous ceux qui pensent qu'ils sont du bon côté. Je veux dire non à tous ceux qui cherchent à déposséder chacun de son individualité, de sa liberté, de sa différence, de sa révolte, des outsiders, de ceux qui arrivent d'ailleurs, voilà.
C'est ce que vous avez fait dès 2010, notamment plaidant la cause des Roms devant le Conseil de l'Europe et devant les parlementaires réunis à Strasbourg. Vous qui aimez à dire que vous n'êtes pas altruiste, plutôt égoïste, individualiste, pourquoi soudain cet engagement citoyen, cette révolte ? C'est généreux.
Non, non, parce que vous savez bien qu'on ne parle que de ce qu'on aime. Et moi, quand on m'avait demandé de faire ce court-métrage, on m'avait demandé de parler, en choisissant le sujet que je voulais, sur l'intolérance. Et puis j'ai regardé, j'ai pensé, j'ai dit qu'est-ce que j'aime. J'aime les tziganes, j'aime les Roms, j'aime tous ceux qui sont difficilement contenable, réductible, ce qu'on met de force, tout ça, il faut absolument s'intégrer à l'intégration forcée. J'aimais leur liberté, leur poésie, leur coutume. Donc tout d'un coup, je me suis mis dans cette histoire que j'ai inventée. Et curieusement, j'avais inventé une histoire d'une petite fille tzigane qui était privée de la cantine parce que ses parents n'avaient pas payé. Et puis bon, les aléas de la production, je me suis retrouvée devoir tourner ce film à Rome. Et qu'est-ce que je vois, presque le deuxième jour du tournage, un fait divers qui racontait ça, d'une petite fille qu'on avait exclue de la cantine. Alors que vous voyez tous ces tombereaux de choses qu'on jette et on lui dit tu peux pas rester à la cantine parce que on n'a pas payé ton repas. Et que je m'étais dit que les mêmes problèmes de fascisme, de petits villages ou de petites villes qui ne voulaient pas que les tziganes s'installent chez eux, eh bien, il y a le même problème en Italie. Il y a le même problème partout en Europe centrale. Donc c'était un problème européen. Alors que pour moi, les tziganes, c'est celui qui avait fait le fil rouge de toutes ces diversités des nationalités, en passant de l'Espagne, en France, en Italie, à Budapest, etc. Et on voulait tout d'un coup, et d'ailleurs je suis allée dans un camp de tziganes, avec des roulottes dont on avait enlevé les roues. Ça veut dire quoi ?
Déjà au XIXe siècle, vous connaissez peut-être la lettre de Gustave Flaubert à George Sand.
Très forte.
J'aimerais que vous nous la lisiez, s'il vous plaît.
Je me suis pâmée il y a 8 jours devant un campement de bohémiens qui s'était établi à Rouen. Voilà la 3e fois que j'en vois, et toujours avec un nouveau plaisir. L'admirable, c'est qu'ils excitaient la haine des bourgeois, bien qu'inoffensifs comme des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols. Et j'ai entendu de jolis mots à la prud'homme. Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d'ordre. C'est la haine qu'on porte aux bédouins, à l'hérétique, aux philosophes, aux solitaires, aux poètes. Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m'exaspère. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui on retire son bâton.
En 2007, en qualifiant de héros le fondateur des Brigades Rouges, Renato Curcio, vous avez provoqué une tempête en Italie, ou plutôt un tollé dans l'opposition de droite. Alors je ne veux pas rouvrir le dossier, mais quand même, Fanny Ardant, je me demande. Avec le recul, cette repentance, puisqu'on vous a demandé de faire des excuses publiques, était-elle nécessaire ?
Il y a eu une grande confusion. C'était parti d'un livre qui traînait, et c'était le livre d'un homme qui racontait l'histoire de son père. Or, son père était Maréchal des Carabinieri, qui avait été tué. Donc, à ce moment-là, une journaliste du Corriere della Sera me dit « Ah bon, vous lisez ça, etc. » Et puis, en parlant, je lui dis « J'ai toujours eu une grande admiration pour Renato Curcio. » Parce que c'est un des rares brigadistes qui ait fait son temps de prison sans délationner ses coralogénaires. Parce qu'il y avait ce système des pentiti que je trouve abject, en disant tu auras 10 ans, 15 ans si tu dénonces les autres. Lui, Renato Curcio, qu'il faut bien rappeler qui était le chef des Brigades Rouges, mais avant l'assassinat d'Aldo Moro, qui était beaucoup plus intelligent. À quoi ça sert déconsidérer un mouvement politique? Donc, moi, j'ai dit, c'est ça ce que j'admirais. Que le type avait dit, OK, je paierai ma dette à la société, j'ai fait mes 30 années de prison, je me suis tue. Moi, j'avais de l'admiration. Et moi, à ce moment-là, comme en France, on ne comprend rien à cette histoire de l'Italie.
Oui, mais c'est compliqué.
On m'a demandé, pensant que j'étais pour le meurtre, pour l'assassinat. J'ai dit, mais il ne s'agit pas de ça. Vous ne savez même pas qui est Renato Curcio.
Il faut peut-être rappeler quand même que cette période dite de stratégie de la tension, oui, les années de plomb en Italie entre 64 et 1980, est complexe. Alors petit, oui, à petit, le rôle des uns et des autres se fait jour, mais on voit quand même comment la répression s'est concentrée particulièrement sur les membres des mouvements d'extrême gauche, oui, le terrorisme rouge, épargnant souvent les activistes de l'extrême droite, le terrorisme noir.
Comme la tragédie de la guerre de Bologne. Il fallait déstabiliser le pays pour montrer, vous voyez les vilains, c'est eux, il faut les éradiquer.
Oui, alors que c'était plutôt les fascistes, des groupuscules fascistes.
Oui.
Alors c'est ce que je me dis, Fanny Ardant, je me dis que le fils d'un policier abattu en 1974 par les Brigades Rouges porte plainte contre vous, pourquoi pas d'une certaine manière, oui, c'est viscéral. Mais en revanche quand même, ça, je comprends moins que Isabella Bertolini, vice-présidente des députés de Forza Italia, exige de vous des excuses. Alors là, il faut être un peu cohérent, je ne veux pas faire d'amalgame entre Forza Italia et un parti fasciste. Mais quand même, il me semble qu'elle pourrait aussi demander pardon pour les actes commis par la droite dure depuis des décennies. C'est pourquoi je vous pose cette question. Avec le recul, était-ce réellement nécessaire? Ou alors, et je peux le comprendre, était-ce aussi une manière de ne pas entraver la projection d'un film au Festival de Venise, L'Ora di Punto?
Non, pas ça, mais parce que je pense que ce que j'ai regretté, c'était d'être venu faire des excuses devant des gens idiots. Alors que s'il y avait eu un vrai débat, j'aurais pu dire « paix aux cendres d'un père dont le fils pleure son père ». Ça, mais parlons de ce que moi j'ai voulu dire. Mais comme j'avais en face de moi des abrutis, je n'ai pas pu parler de ce qui m'était à cœur, ce que je vous dis là. Que je respectais celui qui ne délationnait personne et que j'ai un profond mépris pour le système des pentiti. Ça veut dire, quoi, vous faites partie d'un groupe politique auquel vous croyez, vous allez en prison et tout d'un coup, on vous fait comme une carotte, tu dénonces ses amis et tu vas sortir, vous appelez ça comment?
Pour votre prochain et quatrième film, si on compte le court-métrage, un film qui sortira, je crois, début décembre 2016,
ouais.
Vous avez le projet d'allonger Staline sur un divan. C'est bien ça? Et ce sera avec Gérard Depardieu, votre ami et complice de toujours.
Oui, dans le rôle de Staline.
J'ai l'impression, Fanny Ardant, que c'est récurrent depuis le début de votre parcours. Je n'aime pas le mot carrière. Envisager les bourrasques politiques à travers le prisme des destins individuels. Je dirais, regarder ce qu'on appelle la grande histoire, l'évolution de l'humanité, mais du côté de l'intime. Déjà, Nina Companese faisait ça à sa manière. Ettore Scola aussi, dans ses huis clos. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec Staline?
Je le prends pendant 3 jours.
Staline?
Oui, au milieu des bois. Et en effet, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est comme une sorte de huis clos, dans lequel il y a 2 autres personnages. C'est comme une métaphore sur le pouvoir. Comment rester digne? C'est pas tellement le bourreau que je raconte, c'est la victime. Vous savez bien que la victime suscite le bourreau. Plus vous lui laissez la place de s'enfoncer, plus il s'enfonce. J'ai fait exprès de prendre le pouvoir absolu que tout le monde en a sa mémoire collective. Tout le monde sait qui est Staline. Et je l'ai traité comme une fable. En face de ce pouvoir, comment tu restes un être humain? Comment tu gardes ta dignité? Et donc, c'était comme une mise en abîme, parce que maintenant, il n'y a plus de pouvoir absolu qui envoie au goulag, mais il y a d'autres sortes de pouvoirs.
Il y en a un qui a survécu au prix de sa vie, c'est Ossip Mandelstam, arrêté en 1934 pour cet épigramme contre Staline, le montagnard du Kremlin. J'aimerais vous entendre nous le lire.
Nous vivons sourds à la terre sous nos pieds, à 10 pas, personne ne discerne nos paroles. On entend seulement le montagnard du Kremlin, le bourreau et l'assassin de Moujik. Ses doigts sont gras comme des vers. Des mots de plomb tombent de ses lèvres. Sa moustache de cafard nargue et la peau de ses bottes luit. Autour, une cohue de chefs au cou de poulet. Les sous-hommes ailés dont il joue. Ils hennissent, miaulent, gémissent. Lui seul, tempête et désigne. Comme des fers à cheval, il forge ses décrets, qu'il jette à la tête, à l'œil, à l'aine. Chaque mise à mort est une fête, et vaste est l'appétit de l'ossette.
Merci Fanny Ardant, merci de nous avoir accueillis toute cette semaine chez vous. À bientôt.
À bientôt, merci.
Fin de cette rencontre de Philippe Bresson avec Fanny Ardant. À voix nue attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Martin Guénard, réalisation Rafik Zénine, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.